C'est pas qu'on croit qu'on fait des super homélies, c'est pas du tout ça. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'homélie sur le site de la paroisse, ainsi qu'un certain nombre d'enseignements, et tous les enseignements qui sont donnés pendant le carême, hein, que ce soit sur la gratitude, ou comme les enseignements qui auront lieu ce soir sur la doctrine sociale de l'Église, qui est un enseignement très intéressant. La gratitude, je ne sais pas, c'est moi qui le fais, donc je ne suis point sûr. Mais par contre, celui sur la doctrine sociale de l'Église, très intéressant. Vous pourrez aussi les réécouter sur le site de la paroisse. Ils sont très concrets, c'est l'intérêt des enseignements, de ces enseignements-là. Voilà, donc aujourd'hui, nous, comme tous les ans, en fait, le deuxième dimanche de carême, c'est le dimanche de la Transfiguration. Un mystère lumineux, réconfortant. La semaine dernière, Jésus nous a emmenés dans le désert pour rencontrer qui ? Le démon, avec lui. Aujourd'hui, il nous emmène sur la montagne pour rencontrer qui ? Le Père, l'Esprit-Saint, la véritable, pour manifester la véritable identité de Jésus. Ces deux moments sont des moments indispensables. Nous ne pouvons pas aller dans le désert, descendre de la montagne et aller dans le désert comme nous sommes invités à le faire pendant ces 40 jours si nous ne faisons pas l'expérience de la transfiguration, cette rencontre de Dieu, cette expérience du Père, cette expérience de l'Esprit-Saint, cette expérience de la nuée lumineuse, autrement dit cette expérience spirituelle qui nous dit vraiment qui est Jésus. Ainsi, de la même manière que les apôtres par cette expérience de la transfiguration, étaient préparés à la passion. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont le vivre très très bien, parce qu'en dehors de Jean, donc c'est un des trois Jean quand même, hein. Jean va rester quand même au pied de la croix, mais les autres ne seront pas là, ils auront peur, Pierre va renier, etc. Mais bon, ils étaient quand même préparés, Jésus les avait préparés. De la même manière qu'ils ont été préparés à la passion par cette expérience de la transfiguration, nous nous sommes invités à nous préparer et à vivre ce carême avec l'expérience de la transfiguration, sinon ça n'a plus de sens et nous ne pouvons pas vraiment mener le combat spirituel du carême que nous sommes invités à vivre. Dans ce récit, il est question de Moïse et d'Élie, donc qui conversent avec Jésus. On ne sait pas trop ce qu'ils disent, on aurait bien aimé d'ailleurs. Mais... Donc ils conversent avec Jésus. Effectivement, dans cet épisode, ça nous renvoie, Moïse et Élie nous renvoient à deux autres expériences spirituelles. Moïse, qui était monté au mont Sinaï, pareil, sur une montagne, et a eu la révélation de Dieu. Donc Dieu s'est révélé à lui. Élie, de la même manière, est monté sur un mont pour entendre la révélation de Dieu. Qui, vous vous en souvenez, autant Moïse, c'était comme un volcan. Si vous lisez bien le texte, ça ressemble à un volcan, la description. Comme un volcan avec quelque chose de très impressionnant. Autant pour Élie, c'est complètement différent, puisqu'il y a un tremblement de terre, il y a la tempête, il y a l'orage et tout ça, et puis finalement, Dieu va se manifester dans une brise légère. Deux manières de manifester Dieu. Mais avec Jésus, les choses sont différentes. À la différence de ces deux épisodes de Moïse et d'Élie, qui vont voir Dieu se manifester à eux, avec Jésus, ce n'est pas Dieu qui se manifeste à Jésus. C'est Dieu qui manifeste Jésus. Ce n'est pas Dieu qui se manifeste à Jésus comme Moïse et Élie vont avoir des manifestations de Dieu pour eux, mais Jésus monte à la montagne et Dieu manifeste Jésus. Qui est Jésus ? C'est lui que Dieu se révèle, c'est en Jésus que Dieu se révèle et qu'il ainsi se révèle aux apôtres. Aux apôtres qui est l'Église primitive. C'est nous. Nous sommes là, en germe, nous sommes présents, et la liturgie nous rappelle cela. Cette expérience de Jésus, de l'expérience de qui est Jésus, eh bien cette expérience, aujourd'hui, nous rappellera en particulier le saint pape Jean-Paul II, nous la vivons dans la prière. C'est l'expérience de la prière. Si on peut se poser la question aujourd'hui, alors, le désert du carême, c'est quoi ? Ben, c'est ma vie quotidienne, où je vais essayer de tout faire pour être charitable, pour progresser dans mon comportement chrétien. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'est l'expérience de la transfiguration, de cette montée dans la montagne pour faire l'expérience de Jésus, de la personne de Jésus. Qu'est-ce que cette expérience ? Eh bien, cette expérience, c'est l'expérience de la prière. Aussi, nous ne pouvons pas vivre le carême sans prier. Ça fait partie d'ailleurs des trois domaines où nous faisons un peu des efforts, mais c'est très important de se le dire et de se le redire. La prière nous est vitale. Et le même pape Jean-Paul II va rappeler que le millénaire qui s'ouvre, le troisième millénaire, l'Église doit se caractériser par l'art de la prière. Nous devons faire découvrir cet art de la prière. Il y a une véritable sagesse dans l'histoire de l'Église sur la prière. Et donc monter dans le mont, c'est entrer dans la prière. Cette prière, c'est la prière personnelle, évidemment, la prière quotidienne. C'est aussi l'adoration eucharistique. Quand vous allez à l'adoration eucharistique, chez nous, sur la paroisse, eh bien, vous avez remarqué que l'oratoire s'appelle l'oratoire de la transfiguration. Enfin, je suppose que vous avez remarqué, mais c'est la réalité. On a fait ce choix parce que c'est le lieu de l'expérience spirituelle. Et d'ailleurs, c'est écrit en grec, mais la phrase qui est écrite en grec, c'est fait exprès, parce que l'évangile a été écrit en grec. Donc on s'est dit, traduction, trahison. Quand on traduit, on n'est jamais exact. Donc on préfère mettre le texte en grec d'origine. Donc on l'a écrit en grec, comme ça, ça ne nous distrait pas trop, même si ça interroge certains. Et il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà ce qui est écrit en grec. Écoutez-le. Cette expérience spirituelle, donc l'adoration est un moyen privilégié de l'expérience spirituelle. Mais, évidemment, l'adoration, la prière personnelle, elle ne fera pas son effet sans l'expérience de la transfiguration au sein même de la liturgie. La liturgie, et eucharistique en particulier, mais pas uniquement, est une expérience spirituelle de transfiguration. C'est une épiphanie, une manifestation du Seigneur. Dans la liturgie, Dieu se manifeste. Dans la liturgie, nous le disons parfois, Jésus parle. Alors ça peut être très abstrait, on peut dire oui, on dirait que Jésus parle, on fait comme si Jésus parle. Non, c'est pas vrai. Jésus parle vraiment. Parfois, nous, on ne l'écoute pas, c'est une chose, c'est un autre problème. Mais Jésus parle. Dans la liturgie, Jésus parle. Jésus se manifeste. Dans la liturgie, et l'Eucharistie en particulier, le Seigneur donne sa vie. Vraiment. Il l'a fait une fois pour toutes, mais c'est rendu présent, actualisé dans la liturgie. La liturgie est un lieu de transfiguration, de manifestation du Seigneur, et nous sommes invités à vivre cela, à vraiment attendre de la liturgie cette expérience spirituelle nécessaire pour notre combat spirituel du désert, où nous aurons des tentations, où nous aurons des contrariétés, où peut-être même nous shooterons. Eh bien, nous sommes invités dans la liturgie à vivre cette expérience spirituelle. Et donc, dans cette expérience spirituelle de la liturgie, c'est toute la liturgie qui est importante. Et c'est pour ça que c'est important de venir à la messe dès le début, de pouvoir participer à tout, d'essayer de participer avec son cœur, avec sa voix, tout ce qu'on peut participer du mieux possible, à son corps, avec son attitude de corps, voilà. Et puis, donc, il y a aussi la communion. La communion fait partie de la liturgie que l'on va vivre, mais qui va prendre des formes diverses selon les situations. Pendant longtemps, dans l'Église, on n'a pas pu communier autant qu'aujourd'hui. C'est depuis Saint Pie X, début du XXe siècle, qu'on communie fréquemment. Pendant longtemps, déjà dès le début de l'histoire de l'Église, les pères de l'Église se plaignaient que les fidèles ne communiaient pas beaucoup. Parce qu'ils avaient une véritable crainte de Dieu et dans le sens noble, et donc il se disait... Et donc, en fait, grâce à Saint Pie X, nous avons redécouvert la communion fréquente, mais de grâce que ces communions fréquentes ne soient pas l'occasion de superficialité, de communier fréquemment comme si... Il me vient un exemple qui vaut pas grand-chose, comme si je donnais la quête. Alors, donner la quête, c'est bien, mais ce n'est pas du même ordre. Communier, c'est quelque chose de très très grand et il ne faut pas le vivre superficiellement. Et nous devons nous laisser interpeller par les circonstances aussi Nous voulons interpeller de la manière dont nous communions. Quelle est notre attitude de cœur? Est-ce que nous cherchons vraiment à le vivre avec toute l'intensité que cela demande? Est-ce que nous cherchons à accueillir le Seigneur dans notre vie et à faire vraiment l'expérience de cette transfiguration? Voilà. Et puis, il y a cette belle parole qui est dit « Écoutez-le », où le Père dit « Écoutez-le » en parlant de Jésus. Et c'est important aussi, pendant ce temps du carême, de se mettre vraiment à l'écoute du Seigneur, hein, d'écouter Jésus qui parle dans la liturgie, qui parle dans sa parole de Dieu et qui parle aussi avec l'Église, par l'Église. Hein. La différence entre nos frères protestants et nous, c'est qu'au moment de la réforme protestante, les protestants, nos frères protestants ont dit « Dieu parle directement au cœur, point ». Chacun se débrouille directement avec Dieu. Et l'Église catholique, elle, dans la contre-réforme, dans sa précision, dans le moment où elle a dû préciser son attitude, elle dit « Oui, c'est vrai, c'est une réalité, Jésus parle directement au cœur, et Jésus parle par sa parole, mais jamais sans l'Église, toujours avec l'Église. L'Église nous aide à ne pas mal interpréter ce que nous croyons subjectivement recevoir. C'est grâce à l'Église que nous ne nous égarons point. Et donc, demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir écouter le Seigneur avec l'Église, dans l'Église. On a la chance d'avoir un pape qui nous y aide beaucoup, mais on aura un autre pape, ça serait pareil. Le temps de Benoît XVI, c'était pareil. Le temps de Jean-Paul II, c'était pareil. Toujours, l'Église, à travers ses papes, son évêque, les prêtres aussi, je suis désolé, hein, prêtres aussi, est là pour nous guider, pour nous éclairer notre conscience, pour que nous puissions vraiment le suivre et faire cette expérience spirituelle nécessaire à notre vie chrétienne pour progresser. Voilà, que le Seigneur nous y aide. Amen.